les façons, l'usage n'est plus, il en faut bien, mais il est lui-même changé, d'une certaine façon. Il n'est plus que le relais ininterrogé dans son essence, plus du tout interrogé du côté politico-philosophique comme chez Aristote, donc plus du tout dominé politiquement par la question qu'est-ce qu'habiter. Cette question est au contraire la question à la mode des architectes, des jeunes architectes chez Brandt, parce qu'ils savent que là ils tapent dans le vide de la modernité, que ça fait bien. Mais ils devraient savoir aussi qu'il est complètement exclu de s'arracher à la logique d'une production qui est dominée par la circulation de l'argent en lui-même, c'est-à-dire par l'emploi du capital, soit dans la spéculation foncière, soit dans l'industrie du bâtiment, où l'argent s'échange avec lui-même dans son reflux, dans le reflux d'un plus, et où se loger, où habiter n'est plus que se loger, ce que ça peut être, sous de telles contraintes. Simplement, il y a un mime de ce que pourrait être une habitation dans le secteur luxe du logement. Mais ça n'est encore qu'un mime. Ou des tentatives désespérées, folles, magnifiques et immédiatement récupérées, recyclées dans le capital par la mode, comme celles qu'on trouve dans telle ou telle vallée, pas la vallée, la Deep Valley, qui est au contraire wall to wall carpet of misery, comme disent les gens de Los Angeles. En français, moquette, ça s'appelle wall to wall carpet. Il y aura une moquette de misère. Mais dans des vallées luxueuses de Californie, il y a des champs, il y a des architectes avec en fait financés par des gens très riches qui inventent, je ne sais pas moi, d'habiter dans les arbres, d'habiter dans des bulles, d'habiter, enfin, qui inventeraient quelque chose comme une esthétique qui serait un nouveau mode de vivre. Échappant, se flattant d'être post-industriel. En réalité, où ça s'arrête, où c'est recyclé dans quelque chose qui est tellement peu post-industriel, que c'est au contraire une nouvelle industrie de pointe. Les industries de pointe sont toujours des industries de luxe. Et donc finalement, dans le meilleur des cas, peut apparaître la disparition de question de l'habiter. C'est ce que le luxe peut faire de mieux. Dans sa folie, dans son invention artistique, tenue à bout de mécénat, c'est même pas d'être capable de rouvrir la question, mais peut-être de faire apparaître, en effet, la misère du se loger, y compris du se loger luxueux. Il y a la disparition de la question de l'habitation. C'est un exemple. Donc, il faut faire très attention. Le capital, ça a l'air simple, ça ne l'est pas. La forme marchandise dans laquelle nous allons entrer, qui est la plus simple des formes, et dans laquelle se trouve in nuce l'être humain, comme dans son noyau, ni plus ni moins que le capital lui-même, c'est-à-dire la logique aboutie de l'argent, cette forme marchandise, celle qui est coincée entre A et A, n'est en fait pas la même que la marchandise aux deux extrêmes, M, A, M. C'est justement parce que la marchandise sera la marchandise du capital, parce que la valeur sera la valeur du capital, parce que l'argent sera l'argent du capital, comme monnaie du capital, comme trésor du capital, etc. Il faut commencer par la forme aboutie, par la formule générale du capital lui-même, avant d'aborder les formes dites simples, qui sont en réalité analysées à la lumière du tout. Donc, dans la circulation, marchandise, argent, marchandise, l'argent est enfin converti en marchandise qui sert de valeur d'usage. Il est donc définitivement dépensé. Dans la forme inverse, argent, marchandise, argent, c'est-à-dire La forme crématistique au sens d'Aristote, à quoi appartient toute notre économie politique moderne? L'économie politique moderne n'appartient même pas à ce qu'Aristote appelle l'économique, mais bien à ce qu'il appelle la crématistique. Donc dans la forme inverse, argent, marchandise, argent, l'acheteur donne son argent pour le reprendre comme vendeur. Par l'achat de la marchandise, il jette dans la circulation de l'argent, qu'il en retire ensuite par la vente de la même marchandise. Cet argent est donc simplement avancé. Et même, il est avancé un peu comme le forfait, le yo-yo du gros enfant de belle-mère. C'est-à-dire que l'argent est lâché avec un élastique. Le capital ne dépense rien. On croit toujours le contraire. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont éprouvé pour tel prototype, ceci ou cela. Il est possible que tel capital, ici ou là, en rate son opération et se ruine. Aucune importance, c'est immédiatement racheté par une autre partie de la substance automatique. Et ça repart. Mais le capital ne dépense pas, il avance. Et il avance l'argent pour en retirer. Dans la flotte, il n'y a donc pas de dépenses. Il n'y aurait de dépenses que sur fond de finitude antique, politico-philosophique. Ou ce qui revient même dans une logique non abstraite du désir. En revanche, on voit déjà que dans la marchandise qui va être le simple moyen terme du retour de l'argent sur soi, rien n'est désiré vraiment. Il n'y a pas de dépense. La vraie idée de dépense, c'est l'idée de l'usine de dépense, c'est l'idée de dépense à fond perdu. Et ce qui définit la capacité de désirer, c'est en effet le rapport à quelque chose qui essentiellement ne termine. Finalement, on ne peut désirer que ce qui nous définit, c'est-à-dire ce qui nous finit et à partir de quoi nous commençons. Clôture, à partir de quoi nous commençons. Le reste n'est pas désirable. Le tout simplement appréhensible, tout simplement maîtrisable, le manipulable, le provocable, ça s'utilise et ça se jette. Ça ne peut se désirer que sur un certain mode hystérique, c'est-à-dire dans le vide du plus. Alors que l'analyse antique du désir est le désir de lasser. Non pas lasser au sens d'une modération. En effet, être méfiant à l'idée des sagesses de laurea mediocritas, de la modération. Mais la modération, elle a toujours été inventée à l'usage de certaines couches sociales par la logique moderne du sans limite. Elle est l'indéfini de la modération. Les anciens ne sont pas spécialement modérés par la façon dont les tragiques se traitent les uns les autres. Mais la recherche, l'assez dont il s'agit, qu'est-ce que ça peut bien être, hein? Tout ce en quoi apparaît le Unwillensein, l'envue de soi-même du Dasein. Et l'envue de soi-même du Dasein, c'est toujours quelque chose en un sens qui est à la fois non humain et qui définit l'être humain en son essence. Et c'est quelque chose sur quoi je ne peux pas, d'une certaine façon, me retourner. Quelque chose qui est curieux, que ne m'appelle et ne me convient que ce qui ne peut pas être ramené sous la vue ou sous la prise comme un objet, comme un simple sens présent. ce dans quoi se mirerait de quelque façon le vide du sujet de la représentation. Ce qui est désirable est par conséquent toujours la matière, y compris pour l'esprit. Le savoir est une des formes du désir de la matière, c'est le désir d'exploration de la matière logique. Le c'est ainsi de la chose, beaucoup plus forte que moi, et qui est l'ouverture même de l'esprit à lui-même, cependant. C'est ainsi que l'homme est construit. Il ne désire que sa fin. Cela dit, il n'y a pas de texte à cette fin. Il n'y a pas de modèle déposé du Hetzel, du bien-vivre. Il y en a chaque fois un texte historial inventé, on va dire un texte à l'intérieur de chaque histoire, une infinité de palimpsestes individuels. Ça s'écrit, c'est un texte qui s'écrit en s'inventant. Et qui sait qu'en un sens, ce qu'il ne poursuit rien, il est poursuivi. Et il aime non pas apprendre, mais être surpris. Il n'y a que ce qui me surprend, qui lève en moi désir et plaisir. Et ce, quel que soit, l'ordre de la sensualité ou l'ordre de la connaissance la plus théorique, c'est toujours la même chose. En revanche, ce qui se laisse réduire à la loi de construction d'un